La vie de William Dewsbury, suite, chapitre XIV 1663. William Dewsbury libéré de York, emprisonné près de 8 ans à la prison de Warwick, persécution des amis, bannissement de beaucoup, allocution consolatrice de William Dewsbury aux souffrants. William Dewsbury fut remis en liberté après sa détention à York au début de l'année suivante, et le lieu de son emprisonnement fut transféré, vers la fin de 1663, à la prison commune de Warwick, où il demeura prisonnier depuis lors jusqu'au début de l'année 1671, soit une période de près de 8 ans. Ainsi furent liens et afflictions départis à ce souffrant patient et joyeux pour « la vérité telle qu'elle est en Jésus ». En guise d'introduction à quelques épîtres de sympathie et d'encouragement qu'il adressa durant cet emprisonnement à des amis condamnés au bannissement, il est maintenant nécessaire de donner au lecteur quelques informations relatives à l'application de cet acte cruel et intolérant du gouvernement déjà mentionné, qui visait à écraser la société et à déraciner leurs principes du pays. Long et retentissant fut le cri « Grande est Diane des Éphésiens » et les fabricants de petits sanctuaires d'argent pour la déesse pouvaient bien s'écrier « Notre métier est en danger d'être réduit à néant ». La persécution des amis sous le conventicle à actes fut poussée à un tel extrême que les prisons, surtout à Londres, en étaient continuellement remplies, et plusieurs centaines furent condamnées au bannissement sous le coup de cet instrument arbitraire. William Crouch, un ami qui vécut cette terrible période, écrivant au sujet de l'année 1664-5, nous donne les informations suivantes. Je cite ses propres mots. « Alors les ennemis et adversaires de l'Église étaient plongés dans de profondes délibérations et consultations afin d'extirper entièrement les Quakers d'Angleterre en les bannissant dans des colonies d'outre-mer. La loi fut adoptée et beaucoup de magistrats et de dirigeants étaient déterminés à la faire appliquer promptement et pleinement. » L'acte autorisait le bannissement à la troisième condamnation pour avoir assisté à une réunion illégale. Tant d'amis furent, à maintes reprises, rapidement arrêtés lors de nos réunions religieuses et emprisonnés, puis, au cours d'assises et de sessions, condamnés au bannissement, afin d'être embarqués pour être envoyés au loin. Certains furent réellement emmenés dans des colonies à l'étranger. Mais d'autres, qui avaient été mis à bord, furent ensuite débarqués en Angleterre par les capitaines des navires. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il plût au Seigneur de manifester son déplaisir et de mettre un terme à ses actions contre nature, iniques et inhumaines, par ses coups sévères de sa main sur la nation, dans les années 1665 et 1666. Il ressort du même auteur que les premières procédures engagées sous cet acte eurent lieu aux assises de Hertford, les 12 et 13 du mois appelé août 1664, où Orlando Brigman présidait en qualité de juge, et qu'il prononça une sentence de bannissement contre 8 amis, alors et la traduisent en jugement. 7 d'entre eux, à savoir Nicholas Lucas, Henry Fist, Henry Marshall, Francis Prior, John Blindell, Jeremiah Heen et Samuel Traherne, furent conduits à Londres et, le 14 du mois appelé septembre, embarqués sur l'Anne, le navire poste pour la Jamaïque, Thomas May commandant. Mais 2 mois plus tard, ils furent débarqués, pour les raisons suivantes entre autres, consignés de la propre main du commandant et dûment attestés. Moi, voyant que la Providence m'a jusqu'ici grandement contrarié, par quoi je perçois que la main du Seigneur est contre moi, je n'ose poursuivre mon voyage pour les transporter, eux étant des personnes innocentes, et aucun crime n'ayant été signifié contre eux digne de bannissement, etc. Pour ces raisons, et beaucoup d'autres encore, je ne les transporterai pas. Cela fut certifié et remis aux souffrants, pour montrer qu'ils ne s'étaient pas échappés du navire. Après cela, 3 autres amis, à savoir Canol Britain, Bansolomew Croke et Louis Roger, furent mis à bord du navire Mary Fortune, à destination de la Barbade. John Lloyd, capitaine, lui aussi se repentit et de ce fait, refusant de les transporter, les débarqua, leur donnant un certificat contenant, entre autres raisons, ce qui suit. Après avoir fait allusion à quelques causes de retard, il dit « Mais maintenant, au moment de partir, leur cri et le cri de leur famille et amis sont montés aux oreilles du Seigneur Dieu, et il nous a frappés jusqu'au plus profond du cœur, disant « Maudit soit celui qui sépare mari et femme, et de plus, ceux qui oppriment son peuple, ses plaies les suivront où qu'ils aillent. Et assurément, nous en participons déjà en partie, car nos consciences ne nous laissent en aucune manière nous reposer ni être en paix, car le Seigneur nous a frappés d'une terrible crainte, de sorte que nous ne pouvons en aucune façon nous résoudre à les transporter. D'après le récit de Bess sur les souffrances des amis, nous apprenons que plusieurs centaines d'entre eux furent condamnés à boire à la même coupe, mais que les capitaines de navires, conscients de l'innocence des souffrants, refusèrent généralement de prendre part au gain de l'oppression. Mes 3 amis, à savoir Edward Brush, James Harding et Robert, et furent, le 24 du premier mois 1664, tirés de Newgate et conduits à Gravesend, et là embarqués avec peu ou pas d'avertissement. Elle était malade alors et mourut bientôt, son corps fut ramené à Londres et y fut enterré. Les deux autres amis furent conduits en Jamaïque, où, sous la bénédiction divine, ils prospérèrent, et après être restés peu de temps sur l'île, ils revinrent en Angleterre, Edward Brush auprès de sa femme et de sa famille, et James Harding avec une épouse qu'il y avait épousée et trois enfants, dont elle lui avait fait le don à la naissance. Le dernier cas de bannissement que j'ai l'intention d'exposer au lecteur peut être rapporté comme suit. En l'année 1664, 55 amis furent condamnés à l'exil, par jugement rendu à Rixisroll, par les juges Ide et Twisden, 37 hommes et 18 femmes. Ils furent emprisonnés à Newgate jusqu'au 4 du 6 mois 1665, et à ce moment, tandis que la peste faisait rage à Londres, ils furent tirés de prison, et les agents du gouvernement, après de longues recherches et de nombreux refus, ayant conclu un accord avec un homme de caractère infâme pour les transporter en Jamaïque, les prisonniers furent embarqués, certains d'entre eux étant alors atteints de la peste. Le navire, appelé le Black Eagle, dont le capitaine se nommait Fudge, mis 7 semaines avant d'atteindre les Downs un temps très long pour parcourir une courte distance de Londres à la côte sud de l'Angleterre. Durant ce laps de temps, 27 amis moururent. Beaucoup furent enterrés dans les marais au-dessous de Gravesend. Fudge, qui s'était lourdement endetté pour armer son navire, fut arrêté et jeté en prison, et Peter Love fut nommé capitaine à sa place. Dans les Downs, ils furent retenus de nombreuses semaines par des vents contraires, de même qu'entre ce point et Plymouth. Après une longue attente sortant enfin de ce port, le Black Eagle fut capturé par un corsaire hollandais. Ils rencontrèrent ensuite une tempête qui sépara les navires et emporta l'un vers la côte de Norvège. Mais finalement il parvint à arriver en Hollande, où tous les amis se retrouvèrent. Les Hollandais, constatant que leurs prisonniers n'étaient guère susceptibles d'être échangés contre des prisonniers de guerre, délivrèrent des certificats à ceux d'entre eux et les renvoyèrent chez eux. Ainsi, dans ce cas, la miséricorde d'une providence souveraine s'interposa pour contrecarrer et réduire à néant le dessein de ces procédures arbitraires et cruelles. George Fox nous a laissé le récit plus circonstancié suivant du même extraordinaire épisode de persécution. Il y eut de grands emprisonnements en 7666 et les années précédentes, tandis que j'étais prisonnier à Lancaster et à Scarborough. À Londres, beaucoup d'amis étaient entassés à Newgate et dans d'autres prisons, où sévissait la maladie, la pestilence, et beaucoup d'amis moururent en prison. Beaucoup aussi furent bannis, et plusieurs embarqués sur ordre du roi. Certains capitaines de navires ne voulurent pas les transporter, mais les débarquèrent de nouveau. Cependant, quelques-uns furent envoyés à la Barbade, en Jamaïque et à Nevis, et le Seigneur les y bénit. Il y eut un capitaine de navire, très méchant et cruel envers les amis qui avaient été mis à bord de son navire, car il maintenait les amis en bas, dans l'entrepont, bien que la maladie fût parmi eux, de sorte que beaucoup en moururent. Mais le Seigneur le frappa pour sa méchanceté, car il perdit la plupart de ses marins de la peste, et fut plusieurs mois contrarié par des vents contraires, tandis que d'autres navires appareillaient et faisaient leur voyage. Enfin il arriva devant Plymouth, et alors le gouverneur et les magistrats ne lui permirent pas, ni à aucun de ses hommes, de débarquer, bien qu'il eût besoin de provisions pour son voyage. Mais Thomas Lowe, en ce coton, John Late et quelques autres amis se rendirent au bord du navire et portèrent des nécessités aux amis prisonniers à bord. Le capitaine, ainsi contrarié, frappé et tourmenté, maudit ceux qui lui avaient imposé cette cargaison et dit qu'il espérait ne pas aller loin avant d'être pris. Le navire venait à peine de disparaître de la vue de Plymouth qu'il fut capturé par un bâtiment de guerre hollandais et conduit en Hollande. Lorsqu'ils arrivèrent en Hollande, les États renvoyèrent en Angleterre les amis bannis, avec une lettre de passeport et un certificat pour montrer qu'ils ne s'étaient pas échappés, mais qu'ils étaient renvoyés par eux. Mais avec le temps, la puissance du Seigneur triompha de cette tempête, et beaucoup de nos persécuteurs furent confondus et couverts de honte. Journal. Les deux épîtres qui suivent immédiatement sont celles auxquelles il est fait référence dans un paragraphe précédent. À mes chers et honorables frères, qui sont ou pourraient être condamnés à être transportés vers les îles au-delà de la mer, pour le témoignage du nom du Seigneur Jésus. Mes chers amis, dans la souffrance de l'agneau, qui vit et règne au siècle des siècles, et qui vaincra tous ses ennemis au jour déterminé, lorsque tous ses ennemis se prosterneront sous la plante de ses pieds, alors tous ceux qui vous oppriment vous appelleront les bénis du Seigneur à jamais, ô mes chers frères. Relevez la tête dans la lumière et la vie de Jésus, pour lequel vous souffrez, demeurez dans sa lumière, régnez sur vos pensées, qu'elles concernent votre épouse ou vos enfants, ou quoi que ce soit qui troublerait votre esprit, en offrant librement ce témoignage. Ô vous, vaillants parmi le peuple, prémices et champions de tête. Le Seigneur est avec vous, et des milliers et des myriades béniront le nom du Seigneur pour votre fidèle témoignage, qui retentira parmi les nations pour rassembler le peuple et pour amener notre petite sœur, qui n'a point de saint les autres sectes hors des Quakers, à sentir la consolation de la vie de notre bien-aimé, pour lequel nous souffrons aujourd'hui. Ô mes chers frères, triomphez, triomphez face à tous vos ennemis, tout ira bien pour vous, ou que le Seigneur permette que vous soyez emmenés, et quant à vos femmes et à vos enfants, le Seigneur a dit à mon âme, tout ira bien pour eux, la bénédiction du Seigneur reposera sur eux au siècle des siècles, et sur vous, pour la consolation des îles qui attendent sa loi. Donc, dans la puissance pacifique du Seigneur, avancez, vous, frères choisis de la semence souffrante que le Seigneur a bénie, ô hommes heureux d'être jamais nés. Béni soit le jour où le Seigneur vous a appelé par sa puissance à demeurer fidèles en ce qu'il exige de vous. Dans ce témoignage vivant, vous traversez tout le corps comme un fleuve d'huile et de rafraîchissement vertueux, votre mémoire ne périra jamais, mais prêchera aux âges et aux générations, à la gloire du nom de notre Dieu à jamais. Ô, avancez avec joie et triomphez, car c'est pour faire entrer la semence des extrémités de la terre, afin que nos frères viennent de loin et nos sœurs des bouts du monde. Ô Dieu puissant, couvre tes fidèles serviteurs de ta puissance glorieuse, et fais qu'eux et leurs familles se réjouissent au siècle des siècles, dans ta disposition à leur égard. Amen. Ma vie, dans l'esprit de souffrance, est avec vous, au nom du Seigneur, pour toujours, mes chers compagnons dans ces liens vous saluent dans l'amour du Seigneur. Adieu, William Dewsbury, prison commune de Warwick, le 10 jour du 8-1-1664. Pour les chères filles de Sion, dont le Seigneur a souffert ou souffrira que leur chair et tendre Marie soient séparées au-delà des mers ou ailleurs, pour le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Chères servantes de la gloire, que le Seigneur a jugé digne de vous séparer de vos chairs, tendre et bien-aimée Marie, pour le nom du Seigneur, assurément, beaucoup mettent l'épaule pour aider à porter le fardeau de vos épreuves en ce jour. Ô les larmes et les déchirements de cœur qui sont répandus devant le Seigneur pour vos chères Marie, et pour vous et vos tendres enfants. Vous êtes des familles de nombreuses prières, et assurément vous serez reconnues comme des familles de nombreuses miséricordes. Ô chères filles de Sion, contentez-vous de votre coupe, qui vous est présentée en ce jour, et bénissez le nom du Seigneur, car vous êtes jugées dignes d'être les prémices parmi les filles bien-aimées. Que pourrait faire de plus le Seigneur pour vous, sinon vous comptez digne de souffrir de cette manière, et vous donner de telles Marie bénies, établies comme des lumières glorieuses devant tous les peuples. Chères filles de Sion, choisies et bien-aimées, qu'il soit vu que vous aimez le Seigneur Jésus plus que vos chères Marie. Dominez la part affective, et consolez vos âmes dans l'amour et la vie du Seigneur Jésus, votre épouse éternelle et le consolateur de vos époux terrestres. Il nous fera tous nous réjouir en tout ce à quoi il nous appelle, tandis que nous veillons diligemment et nous jugeons nous-mêmes, et que nous nous reposons dans la lumière et dans la volonté de Dieu. En cela, que le Seigneur vous affermisse, chères filles de Sion bien-aimées, pour lesquelles l'âme de votre frère respire chaque jour vers le Seigneur, afin de vous fortifier, vous et vos chères Marie, et tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, en qui portez-vous bien. William Dewsbury, prison commune de Warwick, le 10 jour du 8-1-1664. L'épître extraordinaire suivante appartient à cette période. Elle est jointe pour l'information et la satisfaction de ceux qui ont la foi de la recevoir comme une preuve, en plus de celles qui ont précédé, que le troupeau du Christ n'est pas laissé seul et sans consolation au jour de l'épreuve, de l'affliction et de la détresse. À tous les membres fidèles et souffrants, dans tous les trous, prisons et geôles, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, ainsi qu'au reste des fidèles, où qu'ils soient dispersés à la surface de la terre, chers frères et sœurs. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, bien que vous buviez maintenant la coupe de l'adversité et mangiez le pain de l'affliction, et que vous soyez foulés aux pieds comme si vous n'étiez pas digne de vivre sur la terre, pourtant malgré toute la fureur des hommes, vous êtes résolus dans la force de mon esprit, à être privés pour toujours des douces joies de l'épouse, du mari, des tendres enfants, des parents, des biens extérieurs, de la liberté et de la vie, plutôt que de nier le témoignage de mon nom devant les fields. Ô vous, chers et tendres enfants, qui n'aimez pas votre vie jusqu'à la mort en ce jour, afin d'achever un bon témoignage pour la gloire de mon nom, dit le Seigneur Dieu, relevez la tête dans la lumière de mon alliance et croyez en mon nom, car je suis près de vous, dit le Dieu puissant du salut. Qu'aucun poids ni fardeau ne repose sur vous, car je serai plus qu'un mari pour la femme, et plus qu'une femme pour le mari, ou des parents pour les enfants, ou des enfants pour les parents, oui, je serai un époux pour la veuve, et un père pour les enfants qui sont privés de leurs tendres parents à cause de mon nom. J'élargirai vos frontières dans la vie de ma justice. Vous qui souffrez dans une véritable innocence, je vous rafraîchirai par la profondeur de mes miséricordes. Oui, je vous garderai par l'ange de ma présence, et tous ceux qui trament le mal contre vous seront confondus devant la gloire de ma puissance, par laquelle je vous garderai et préserverai dans la parole de ma patience, en sûreté, en ma présence, dit le Seigneur Dieu. Ainsi donc, chers enfants, vous qui buvez le plus profond dans les souffrances, ne trouvez pas cela dur, car c'est mon dessein à votre égard, à vous tous qui n'avez pas l'œil sur vous-même, mais cherchez uniquement ma gloire dans tout ce que vous faites, de vous rendre de plus en plus honorable dans la gloire de ma vie, et de doubler mes bénédictions sur vous et les vôtres. Car j'ai contemplé votre intégrité, et mes entrailles sont puissamment émues de compassion envers vous. C'est pourquoi je me suis levé pour vous en ce jour, afin de vous déclarer, ô mon peuple souffrant, qu'aucun cheveu de votre tête ne périra, et que vous ne serez retenu dans les prisons et les trous désolés plus longtemps que je n'ai déterminé que ce soit pour votre bien éternel et la gloire de mon nom à jamais. Tenez-vous donc fidèle dans ma vie, en résistant à toute pensée mauvaise, ou à tout ce qui vous ferait murmurer, ou désirer autre chose que ce que vous savez devoir faire avancer la gloire de mon nom et l'exaltation de ma vérité, au-dessus de tout ce qui s'élève contre elle, en vous soumettant véritablement à la mesure de ma lumière et de ma vie, qui ne laisse aucun chercher une prééminence ou une estime parmi les hommes. Que ni l'ambition du moi ni l'intérêt propre n'aient pouvoir en aucun, mais, dans une vraie humilité, amour et douceur, veillez les uns sur les autres, et que les forts prennent les faibles par la main, afin que vous puissiez tous, avec douceur dans l'amour, la douceur et la sainte crainte, vous servir les uns les autres et redouter mon nom, afin que votre amour soit manifeste à mon égard, dit le Seigneur votre Dieu, et les uns envers les autres, dans la simplicité nue de vos esprits. Alors je ferai ma demeure parmi vous et avec vous, et vous sentirez puissamment en vous et parmi vous ma présence redoutable et glorieuse, se mouvant dans l'exercice de mon esprit, pour la renommée de mon nom et la consolation les uns des autres. Je vous couronnerai de bénédictions célestes dans la gloire de ma vie puissante, et vous louerez mon nom à jamais, de ce que je vous ai fait mes joyaux, et vous ai jugé digne de souffrir pour le témoignage de mon nom. Je marcherai devant vous, à travers toutes les eaux et les flots des afflictions, et je paraîtrai avec vous devant tous les conseils des fils des hommes, et ma puissance salvatrice vous environnera dans vos afflictions brûlantes et aiguës, vous tous qui n'avez votre confiance qu'en moi, l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous donc en mon nom, mes chers enfants, et rejetez sur moi tous vos soucis. Si l'un de vous souffre avec joie le dépouillement de ses biens, je pourvoirai à ce qui est nécessaire pour vous et les vôtres. Si l'un de vous scelle son témoignage dans la parole de ma patience par son sang, je prendrai soin de vos tendres femmes et enfants, ou de vos parents, pour lesquels vos âmes ont été répandues en prière devant moi pour leur bien. Recevez donc ma parole, qui a retenti vers vous depuis le trône de ma grâce et de ma gloire éternelle. Ne vous réjouissez pas trop de ce que les esprits vous sont soumis, mais jetez vos couronnes devant moi, afin qu'il n'y ait pas un esprit de recherche de soi, ni de service de soi dans la famille de mon peuple. Mais que tous sentent la naissance immortelle relevée dans la résurrection de ma vie en vous tous, qui rend véritablement le moi sans réputation, de sorte que toute hauteur est abaissée et toute arrogance inclinée en chacun. Ainsi moi, le Seigneur Dieu, puis-je être aimé, obéi et exalté en vous tous. Je m'arroge ma grande puissance, pour exalter les doux sur la terre et régner sur tout l'orgueil des enfants des hommes, qui s'élèvent au-dessus du témoignage dans leur conscience, afin que mes fils soient amenés de loin et mes filles des extrémités de la terre, aux yeux de tous les peuples, et je les amènerai à confesser dans la soumission à ma puissance que vous êtes le peuple bien-aimé du Dieu Très-Haut et de la semence juste que le Seigneur a bénie. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, mais sera réduite à néant. Cela sera athée et certainement accompli, selon ce qui est déclaré ici, pour votre consolation et votre joie éternelle. Et vous saurez assurément que la bouche du Seigneur l'a dit. La parole du Seigneur, exprimée ci-dessus, me vint dans la maison de prison à Warwick, le 11 jour du premier mois 1664, ce qui me contraint à l'envoyer afin qu'elle soit lue parmi vous, cher peuple fidèle et souffrant du Dieu Tout-Puissant, en qui je demeure votre frère et compagnon dans la tribulation et le royaume de patience en le Seigneur Jésus-Christ. William Dewsbury, commentaire de l'éditeur du site. La prophétie ci-dessus, longue, devrait constituer une preuve ample de la mesure de Christ possédée par William Dewsbury. Joignez à sa prophétie les fruits d'amour, manifestés dans ses écrits tout au long de cette biographie, ajoutez-y les persécutions qu'il a subies, dont 20 ans d'emprisonnement, et vous aurez une preuve incontestable que Dewsbury possédait véritablement le même esprit de Dieu que les apôtres. Chapitre XV. Motifs pour lesquels les amis étaient disposés à endurer de telles souffrances, exposés de leurs principes, témoignage supplémentaire de Pennington. Dans le dernier chapitre, nous avons vu comment la malice du grand adversaire du genre humain s'exerçait envers ceux qui, en ces jours-là, par les puissants efforts qu'il déployait, menaçaient d'ébranler son royaume jusque dans ses fondements. Les amis avaient pris leur place à l'avant de la bataille dans laquelle la nation était alors engagé pour la sauvegarde de ses droits et de ses libertés. Il ne combattait toutefois pas comme les autres, il ne luttait pas contre la chair et le sang, Et les armes qu'il maniait n'étaient pas des armes charnelles. Avec des armes spirituelles, il combattait contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, et contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. Aucun instrument n'aurait pu être plus aisément conçu pour mettre plus pleinement à l'épreuve la constance de cette fidèle troupe que celui auquel on eut recours, à savoir l'acte contre les conventicules, qui, aux vaines sanctions d'amende et d'emprisonnement, ajouta désormais la confiscation et le bannissement, avec la détermination, si cela avait été possible, de plier leur volonté inébranlable sous le despotisme du pouvoir dominant et de les faire se prosterner devant l'idole du jour. Ce qui suit est un résumé du conventicle à acte. Il est intitulé « Acte pour prévenir et supprimer les conventicules séditieux ». Dans le préambule, il est déclaré que le 25 délit. CH y est en vigueur, et aussi qu'il faut pourvoir un remède supplémentaire et plus prompt contre les pratiques croissantes et dangereuses de sectes séditieuses et d'autres personnes déloyales qui, sous prétexte de conscience scrupuleuse, poursuivent dans leurs réunions des entreprises d'insurrection, comme l'expérience récente l'a montré. Voilà pour le préambule et la raison donnée à l'acte. Il y est alors décrété que si toute personne âgée de 16 ans ou plus, étant sujet, etc., se trouve présente à quelque assemblée, conventicule ou réunion, sous couleur ou prétexte d'un exercice religieux, autrement que de la manière autorisée par la liturgie de l'Église d'Angleterre, toute telle personne, une fois reconnue coupable devant de juges de paix, doit être envoyée au geôlier de la maison de correction, pour y demeurer sans caution ni garantie, pour toute durée n'excédant pas 3 mois, à moins que cette personne ne verse au juge une somme n'excédant pas 5 livres, à titre d'amende, selon ce qu'il pourrait fixer. Et pour la deuxième infraction, la personne reconnue coupable encourait la peine d'emprisonnement pour une durée n'excédant pas 6 mois, sans caution ni garantie, à moins que la personne reconnue coupable ne verse une somme n'excédant pas 10 livres, selon l'amende que les juges fixeraient. La peine pour la troisième infraction était l'emprisonnement sans caution ni libération sous garantie, jusqu'aux prochaines sessions générales trimestrielles, assises, libération des prisons, etc., où l'on devait l'inculper, le traduire, etc. Et, une fois reconnu coupable, il devait être statué que ce contrevenant serait transporté au-delà des mers, vers l'une des colonies étrangères de Sa Majesté, la Virginie et la Nouvelle-Angleterre seulement acceptées, et y demeurer 7 ans. Et les dits tribunaux respectifs étaient aussi habilités à délivrer des mandats aux divers constables, etc. Là où se trouverait le patrimoine, immobilier ou mobilier, du contrevenant ainsi transporté, leur ordonnant de saisir entre leurs mains les revenus des terres et de mettre en fourrière et vendre les biens de la personne à transporter, afin de rembourser les frais du shérif pour le convoyage et l'embarquement de la personne à transporter. Et il est également décrété que, dans le cas où le contrevenant reconnu coupable pour la troisième infraction verserait 100 livres au tribunal, il serait libéré de l'emprisonnement, du transport et du jugement afférent. Et il est en outre décrété que le même emprisonnement, jugement, mise en accusation et procédure s'appliqueront à chaque contrevenant chaque fois qu'il récidivera après une telle troisième infraction. Toutefois, il pourra être libéré, et il le sera par paiement d'une somme semblable à celle payée pour son infraction précédente, immédiatement antérieure, avec en plus une somme supplémentaire et augmentée de 100 livres pour chaque nouvelle infraction commise. Les amis virent que l'enjeu était grand et que la confiance placée en eux ne l'était pas moins. La cause était celle d'un autre, non la leur, et leur succès, par la fidélité de celui qui se tenait près d'eux et les protégeait, dépassait tout ce que l'énergie purement humaine aurait pu accomplir. Mais ceux de mes lecteurs qui considèrent les vues des amis comme simplement sectaires peuvent encore être disposés à se demander quel était l'objectif, l'atteinte duquel les Quakers se proposaient, qui pouvait éventuellement leur offrir un équivalent, présent ou futur, en retour des terribles souffrances qu'ils endurèrent ainsi avec patience et persévérance. Je réponds, ils souffraient pour le témoignage d'une bonne conscience astérisque, et beaucoup d'entre eux furent des martyrs chrétiens au sens large du mot, et leur cause s'identifiait aux grands principes et à l'esprit catholique du christianisme lui-même, et nullement à un esprit sectaire. Mais pour satisfaire une telle enquête, il sera nécessaire d'en parler plus en détail et de définir avec quelques précisions, quoique brièvement, les points d'opinion et de pratiques religieuses de cette époque auxquels leur conscience était si profondément attachée. Astérisque non, l'auteur trahit sa compréhension du salut et son absence de salut. La souffrance est requise pour être délivré du péché, ce qui est le salut, comme Pierre le déclare si éloquemment. Par conséquent, puisque le Christ a souffert pour nous dans la chair, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin que vous ne viviez plus le reste de votre temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pie 4:1-2. Et Paul nous dit en outre pourquoi la souffrance doit être endurée, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Tim 2:12. car nous savons que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit, de sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché. Rome 6. Si pas de souffrance, pas de salut, pas de fils de Dieu, et une telle souffrance n'est pas une dure journée au bureau, ni un accident de voiture, ni un divorce. Une telle souffrance vient de votre détermination à vivre une vie pieuse en Christ Jésus, infligée par votre prochain, ou surnaturellement par des forces spirituelles, avec la permission du Seigneur pour vous éprouver et vous châtier. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants, « Mon fils, ne méprise pas la correction-châtiment, correction et discipline du Seigneur, et ne défaille pas quand tu es discipliné, repris, et ou éprouvé dans les épreuves par lui. Car le Seigneur discipline celui qu'il aime, et il châtie tout fils qu'il reçoit. Endurez vos épreuves dans la souffrance comme une discipline, non une punition, mais un entraînement de Dieu pour améliorer votre vertu. Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans discipline, à laquelle tous les vrais fils de Dieu doivent participer, alors vous êtes illégitimes et non des fils. » Hébreux 12, 5-8, il posait comme principe d'une importance capitale qu'aucun pouvoir terrestre ne devait être autorisé à intervenir en matière de conscience. Ce principe fondamental, une fois établi dans leurs esprits, ils n'hésitèrent pas à montrer, par une conduite ouverte, décidée et intrépide, qu'ils étaient sincères en affirmant être vérité tout ce qui leur était ainsi solennellement et clairement imprimé comme tel, quand bien même cela s'opposa fortement aux idées dominantes ou fut en contradiction avec les lois humaines et les coutumes de longue date. Pourvu toujours que cela ne contredit aucune des doctrines ou des principes qui nous sont révélés dans les Saintes Écritures, auxquelles ils faisaient. Les lois injustes, de même que les pratiques antichrétiennes, et même dans la vie privée ou commune, celles qui étaient venues pécheresses, étaient les choses contre lesquelles ils entretenaient une lutte continuelle, refusant de se conformer aux premières et reprenant avec zèle les secondes en toute occasion et sans exception de personne, selon qu'ils étaient conduits par l'Esprit de vérité, endurant patiemment toutes les souffrances auxquelles ils pouvaient s'exposer en s'exerçant ainsi à avoir une conscience sans reproche envers Dieu et envers les hommes. Pendant la plus grande partie de 40 ans, ils persévérèrent, au travers de persécutions pénibles, dans leur résistance à l'usurpation par l'homme d'une prérogative sur la conscience, à laquelle il n'a aucun droit véritable, jusqu'à ce qu'ils vissent leurs désirs en partie satisfaits par une modification considérable des lois, ainsi que par une amélioration manifeste du sentiment public. Quant à leurs opinions religieuses, elles peuvent être brièvement exposées comme suit. Ils affirmaient que c'était une doctrine clairement déductible de l'Écriture elle-même, que à moins que les vérités de l'Évangile ne soient, par révélation de l'Esprit divin dévoilé et scellé à l'Esprit de l'homme, celui-ci doit demeurer sans une perception véritable de leur portée, et ainsi manquer d'obtenir la possession de cette connaissance salvatrice de la vérité que ces écrits ont pour but de communiquer. Tout en l'affirmant au sujet des Saintes Écritures, ils s'employaient avec force à soutenir, sur un fondement non moins solide, leur croyance que l'amour de Dieu pour l'homme est si grand et si universel qu'il a pourvu au salut de toutes ses créatures, pourvu que, de leur côté, elles ne rejettent pas volontairement les offres de son amour en Jésus-Christ. Que Christ étant la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et par laquelle toutes les choses répréhensibles sont mises en évidence, croire en la lumière revient virtuellement à croire en Christ, et suivre la lumière qui enseigne la tempérance, la justice et la piété, c'est suivre Christ, quand bien même on n'en aurait jamais entendu parler par l'oreille extérieure. Astérisque que, puisque c'est elle qui reprend le cœur de tous les individus pour le péché, elle opérait le salut de tous si elle n'était pas résistée, et elle n'est pas moins universelle que la semence du péché, puisqu'elle est l'acquisition de son sang, lui qui a goûté la mort pour tout homme. Ainsi, parmi les païens, tous ceux qui sont sauvés le sont à cause de Christ, dans leur obéissance à cette mesure de lumière et de grâce, si petite soit-elle, qu'ils ont reçue respectivement. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Tous les auteurs Quakers soutenaient constamment que chaque homme sur terre avait son jour de visitation de la part de Dieu, l'appelant à suivre le bon chemin et à craindre Dieu. Ils croyaient que l'évangile de base avait été prêché à chaque homme par l'Esprit de Dieu et la lumière au-dedans de chaque homme, et que si un homme se trouvait dans un pays où il n'avait jamais entendu parler de Jésus, en obéissant totalement à la lumière intérieure, il pouvait atteindre le salut. Comprenez, ils ne disaient pas que quelqu'un qui rejette Jésus pouvait atteindre le salut. Le Seigneur a dit à cet éditeur que, si quelqu'un d'une autre foi était un chercheur sérieux, qui attendait Dieu pour venir dans la lumière finirait par se révéler être Jésus-Christ à cette personne, lui donnant l'occasion d'accepter ou de rejeter la vérité de la révélation. Conformément à l'exposé précédent concernant la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, il croyait qu'elle était avec celui qui, dans l'Apocalypse de l'apôtre Jean, est appelé le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, et par conséquent que tous qui désirent faire l'expérience d'être créés de nouveau en Christ Jésus doivent être trouvés marchant dans la lumière, comme il est dans la lumière, car c'est seulement là que peut être goûtée cette sainte communion qui est avec les saints dans la lumière. ainsi sans définir l'ordre dans lequel la grande œuvre s'accomplit, la régénération, comprenant la justification et la sanctification, est véritablement expérimentée. Sur ces principes généraux se fondaient certaines de ces vues particulières qui rendirent les amis si offensants dans leur premier temps. Ces principes réglaient leurs opinions et leurs conclusions au sujet du ministère de l'Évangile, ce qui excluait le paiement pour prêcher, ainsi que les nominations ou acquisitions humaines comme nécessaires à cette œuvre importante. Ils étaient fermes dans leur conviction que le véritable ministère de l'Évangile était une chose très différente de ce qui en tenait lieu dans le monde. De celui qui les instruisait, ils apprirent, conformément au témoignage des Saintes Écritures, que le ministère de l'Évangile, à proprement parler, ne peut être exercé que par vertu d'un don reçu de Christ et sous l'influence immédiate de son esprit, et que par conséquent aucune personne non régénérée ne peut jamais réellement être l'un de ses ministres. Bien que des multitudes s'introduisent dans cette fonction sacrée, sous le couvert des opinions dominantes et des systèmes établis, les amis portaient un témoignage décidé, conscient et vivant contre tout exercice de fonction ministérielle, à moins qu'il ne soit autorisé comme ci-dessus. Ils condamnaient aussi, dans les termes les plus énergiques, tout système d'entretien, de dîme ou autre, qui en instituant un ministère salarié, tendait à pervertir l'évangile du Christ, à annuler son injonction expresse « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » et à sanctionner la pratique du trafic des choses saintes. Ainsi leur apprenait on à considérer comme entièrement contraire aux Écritures et antichrétien le fait, pour des ministres, de prendre de l'argent sous forme de salaire ou de contribution sollicitée, et comme renfermant dès lors en lui-même les principes de sa propre destruction, en ce que s'il encourait la désapprobation divine, quand bien même le système aurait été longtemps toléré, les desseins du Tout-Puissant s'accompliraient finalement, puisque sa volonté prévaut sur la terre, dans son extinction totale encore à venir. Avec de telles opinions, non pas adoptées à la légère, mais au prix d'exercices d'un caractère nullement extraordinaire, les premiers amis s'en allèrent comme des brebis au milieu des loups, et il n'est pas exagéré de dire, d'une grande proportion d'entre eux, qu'ils étaient prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Lorsque George Fox s'avança, sur l'ordre du Seigneur, comme ministre de l'Évangile éternel, le monde, dit-il, ressemblait à un désert de ronces et d'épines. De nouveau, quand je vins, dans la puissante puissance du Seigneur, avec la parole de vie dans le monde enfla et fit un bruit comme les grandes vagues furieuses de la mer. Prêtres et docteurs, magistrats et peuples, étaient tous comme une mère quand je vins leur proclamer le jour du Seigneur et leur prêcher la repentance, et il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il en eût été ainsi. Ces vues entièrement nouvelles pour cette génération, que lui et les premiers amis furent amenés à prendre de la doctrine chrétienne et des principes de la pratique individuelle, étaient de nature à les faire paraître non seulement très singuliers, mais dans leur zèle et leur réprimande publique de ce qu'ils estimaient à juste titre être le mal, soit à la racine soit dans le fruit, à les faire paraître, comme le disait Pennington, opposés aux institutions existantes et ennemis de toutes sortes d'hommes, mais c'était pour l'amour du Seigneur. Ayant reçu un témoignage à porter contre un ministère mercenaire, ils trouvèrent qu'il leur incombait de résister passivement au paiement de toutes les exigences d'ordre ecclésiastique, et de s'efforcer aussi, de la manière la plus active et la plus zélée, par leurs prédications et par leurs écrits, d'ouvrir les yeux du peuple sur la tromperie dont il était dupe et sur l'asservissement qu'il enchaînait. Ils purent le faire grâce à l'exercice fidèle de leurs divers dons, et d'une manière très puissante et efficace, et ce fut l'une des principales sources des souffrances que les premiers amis durent endurer. Une autre branche du ministère qui leur était confiée consistait à détourner les gens de leur dépendance à l'égard des formes et cérémonies sur lesquelles on insistait tant en matière de religion, et à diriger leur attention vers la substance, vers cette parole implantée qui seule peut sauver l'âme. Dans cette perspective, il rendait témoignage à toutes sortes de professants que la semence incorruptible est la parole de Dieu, qui vit et demeure à jamais, est ce par quoi la grande œuvre de la régénération est commencée, poursuivie et achevée dans les âmes des hommes, et cela seulement dans la mesure où il y a coopération avec elle par l'obéissance à ses manifestations. Cela les exposa à de nombreuses attaques malveillantes et leur attira beaucoup d'ennemis, surtout parmi ceux qui avaient, soit par intérêt égoïste, soit par attachement superstitieux, un lien avec ce qu'on appelle les ordonnances de la religion. Ceux qui plaçaient toute leur espérance dans la pratique d'observance extérieure, bien que liée à la foi au Christ et à la confiance en ses mérites, mais au point d'exclure virtuellement ou de déprécier cette œuvre intérieure, la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit sans laquelle notre Sauveur lui-même. Conformément à ces vues, ils se trouvèrent appelés à renoncer à la foi au baptême d'eau et à l'usage du pain et du vin, appelés sacrement, estimant plutôt qu'ils devaient s'attacher à rechercher, et par tous les moyens, à mettre en avant ce baptême spirituel, ainsi que cette union et communion avec le Christ comme le pain de vie, qui est en tout essentiel et complète en elle-même. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Actes 3:20. Ils virent la fin de toutes les guerres et de tous les combats, et furent appelés à y renoncer, ainsi qu'à la racine d'où ils jaillissent, comme tous doivent le faire par les commandements personnels entendus de Christ, en qui la grande œuvre de la régénération est véritablement achevée. De même, ils renoncèrent à tous les serments, conformément aux commandements du Christ et de son apôtre, et en accord avec une évidence qu'ils sentaient en eux-mêmes, que le lien du serment n'était plus nécessaire là où la vérité de l'Évangile est devenue le principe gouvernant de l'âme. Cela devint, à la fois directement et incidemment, quoique fécondement, une source de souffrance pour les amis au premier temps. Les questions relatives à leur maintien extérieur, à leur habillement et à leur manière de s'adresser aux autres furent sans cesse l'occasion de persécutions et d'injures. Comme elles blessaient l'orgueil des hommes, elles excitaient le mépris et la malice de la nature corrompue. Le refus d'ôter le chapeau, par exemple, sauf comme signe d'adoration envers Dieu Tout-Puissant, fut l'une des choses qui, en ces jours-là, mit à l'épreuve l'esprit dont les professants et d'autres étaient trop animés. Car bien que ce fût en soi une petite chose, cela offensait gravement la nature orgueilleuse de l'homme, et, pour cette raison, valut aux amis autant de reproches et de persécutions que certaines choses de bien plus grande importance, dans lesquelles ils étaient conduits à différer des autres hommes. Ainsi brièvement énumérés, le lecteur possède désormais les principaux points sur lesquels les amis devinrent si odieux à leurs contemporains, et par lesquels ils attirèrent sur eux cette grande somme de souffrances qu'ils eurent à endurer si longtemps. Ce qui, toutefois, acheta finalement à la communauté en général, comme à eux-mêmes, une grande part de la liberté dont ils ont joui depuis. Les courts paragraphes suivants, tirés d'Isaac Pennington, exposent et définissent plus clairement le principe moteur qui animait les premiers amis. Ils servent à illustrer la profondeur de ces sentiments, sous l'empire desquels ils furent rendus disposés à devenir, en leur temps, comme des signes et des prodiges. Pennington dit « Notre œuvre dans le monde est de faire paraître les vertus de celui qui nous a appelés, de vivre comme Dieu, de ne reconnaître approuver rien dans le monde que Dieu ne reconnaisse, d'oublier notre pays, notre parenté, la maison de notre père, et de vivre comme des personnes d'un autre pays, d'une autre parenté, d'une autre famille. Ne rien faire de nous-mêmes, ni de ce qui plaît à l'ancienne nature, mais toutes nos paroles, toute notre conduite, oui, chacune de nos pensées doivent devenir nouvelles. Tout ce qui sort de nous doit sortir du nouveau principe de vie en nous, et répondre à ce principe chez les autres, mais nous ne devons en rien plaire à l'ancienne nature, ni en nous-mêmes, ni en quiconque. Et en marchant ainsi fidèlement avec Dieu, nous avons une récompense dès à présent, et à la fin, une couronne, qui compense et compensera tous les reproches et toutes les difficultés que nous rencontrons ou pouvons rencontrer dans le monde. Nous devons aussi être témoins pour Dieu et propager sa vie dans le monde, être des instruments entre ses mains, pour tirer les autres de la mort et de la captivité vers la vraie vie et la liberté. Nous devons combattre partout les puissances des ténèbres, comme le Seigneur nous appelle au dehors. Et cela, nous devons le faire dans sa sagesse, selon sa volonté, dans sa puissance, et dans son amour, sa douceur et sa mansuétude. Nous ne devons pas emprunter des voies selon notre propre sagesse, et il faut une stricte vigilance dans la vie, de peur que cela ne se relève, ni prononcer des paroles que la sagesse humaine appellerait sages, ni aller, selon notre propre volonté, chercher qui que ce soit, mais le Seigneur doit aller devant. Nous ne devons pas non plus faire usage de notre propre force, mais sentir son bras dans notre faiblesse. Nous ne devons pas non plus nous avancer dans cet amour, cette douceur ou cette mansuétude qui plaît à l'esprit charnel, mais nous devons être vrais envers Dieu, maniant l'épée avec habileté et fidélité, jugeant et abattant le transgresseur dans la puissance et l'autorité de Dieu. Et quand la chose douce, basse, humble est atteinte et relevée, alors le véritable amour, la douceur, la tendresse, la mansuétude doivent se répandre au-dessus d'elle. Le Seigneur Dieu est rude envers le transgresseur, et tout au long de l'Écriture il le taille et le juge, et si nous nous avançons dans le même esprit, nous trouverons les mêmes directions là où nous rencontrons la même chose. Car le Seigneur Dieu ne sera jamais tendre là, et ce qui vient de lui vit en lui et conduit par lui ne peut être tendre là où lui ne l'est pas. Œuvre de Pennington, Une nuit de gris vol, p. 91-92, chapitre XFI 1672, William Dewsbury libéré de la prison de Warwick et voyage à Bristol. John Robert, anecdote le concernant lui, sa femme et W.D. Lettre à George Fox depuis le nord de l'Angleterre, G. F. dans la prison de Worcester, jugé devant le juge Hall, son opinion sur G. F. Extrait d'une épître William Dewsbury visité par John Whiting, complot papiste, les amis souffrent sous l'accusation d'être des jésuites ou William Dewsbury détenu 6 ans à Warwick. William Dewsbury fut relâché de sa longue détention dans la prison de Warwick en l'année 1672. À cette époque, il y avait emprisonnés, dans toute l'Angleterre et le pays de Galles, plus de 400 personnes du peuple appelées Quakers, dont beaucoup sous le coup d'une sentence de prémonir et de bannissement. Peu après la publication de la déclaration d'indulgence, à la suite d'un entretien que George Whitehead et d'autres amis eurent avec le roi en conseil, où leur condition cruellement opprimée lui fut exposée, il fut amené à émettre un ordre pour leur élargissement et la remise de toutes les peines et pénalités prononcées contre eux. En vertu de cet acte, William Dewsbury fut mis en liberté. Pendant l'intervalle de plusieurs années qui s'écoula entre cette date et celle de l'épître à la fin du chapitre précédent, on peut difficilement s'attendre à ce que beaucoup d'incidents se soient produits propres à combler la lacune de cette histoire. Cet emprisonnement prolongé fournit un exemple parmi beaucoup d'autres qui montrent que la foi et la constance des amis, bien que durement éprouvés, suffisaient à préserver le souffrant de défaillir dans ces épreuves. Il faut toutefois déclarer que, d'après ce que nous pouvons recueillir dans deux de ses épîtres, sa souffrance morale fut à un moment si grande, durant sa détention à Warwick, en raison du danger où se trouvaient beaucoup d'amis, du fait des dissensions qui s'étaient élevées dans la société, que son esprit en fut profondément blessé et sa santé corporelle altérée. Sa vie à cette occasion paraît avoir été en danger imminent, car ses forces étaient tellement réduites qu'il pouvait à peine parler, et à toute apparence, sa fin semblait s'approcher pendant plusieurs semaines. Mais, dit-il, Dieu dans sa miséricorde a rendu des forces au temps qu'il avait fixé. Nous avons cependant lieu de conclure, malgré ces faits, qu'il supporta cet emprisonnement, aggravé comme il l'était probablement au-delà de la plupart des autres occasions, avec la même résignation joyeuse qu'auparavant, et la preuve en que nous trouvons qu'il fut rendu capable d'écrire diverses exhortations animantes pour encourager d'autres amis dans des souffrances semblables, que la fureur de la persécution ou les flots de la tentation continuaient d'assaillir. Plusieurs de celles-ci doivent être omises, mais je n'hésiterai pas à ajouter la suivante, écrite au moment où sa détention touchait à sa fin. Elle est datée du 5e jour du 3e mois 1671, et elle est remarquable autant par sa brièveté que par sa plénitude. Mes chers amis, en ces jours d'épreuve, ne craignez pas ce que l'homme peut faire, lui dont le souffle est dans ses narines, mais levez les yeux vers la toute-suffisance du Dieu Tout-Puissant pour appuyer vos esprits sur lui, qui vous a jugé digne de souffrir pour lui. Dans toute humilité, marchez fidèlement devant lui jusqu'à la fin, il est votre récompense, et il vous donnera une couronne de vie pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Seigneur, tel est le souffle de mon âme pour vous, vous que mon âme aime. Tenez vos réunions, dans l'autorité et la vie de l'esprit doux et patient, qui use et surmonte toutes les choses qui ne sont pas de sa propre nature. Lisez ceci dans la crainte du Seigneur parmi les amis. William Dewsbury, durant l'intervalle de liberté qui suivit sa délivrance de cet emprisonnement, John Whiting, qui le connaissait personnellement, nous informe que ses voyages furent étendus dans plusieurs parties de l'Angleterre, particulièrement à l'ouest et au nord, dont aucun récit détaillé n'a été conservé. De Bristol, le 7 jour du 3 mois 1673, il adresse une lettre à George Whitehead et Alexandre Epoch, ainsi qu'à d'autres frères concernés par la réunion générale alors sur le point de s'assembler à Londres, dans laquelle il s'excuse de ne pas être avec eux, au motif que le Seigneur en avait disposé autrement, mais il m'est ordonné autrement, ayant beaucoup sur moi tandis que la porte est ouverte. Dans un post-scriptum, il les informe que « les amis sont généralement dans un doux état avec Dieu dans cette ville, et là où je suis passé, pour mon réconfort et le vôtre dans le Seigneur, béni soit son nom à jamais ». Les circonstances suivantes, rapportées par Daniel Roberts au sujet de son père, John Roberts, dans des mémoires très intéressants qu'il nous a laissés à son propos, auraient peut-être dû être introduites un peu plus tôt. Bien que seule la plus petite et dernière partie concerne William Dewsbury, néanmoins, comme l'intérêt de l'anecdote aurait été perdu si on la séparait du récit, et comme celle-ci illustre bien certaines particularités propres aux premiers amis, le lecteur ne s'offensera pas de ce que je lui en présente l'ensemble. En l'année 1665, il plut au Seigneur d'envoyer deux femmes amies du Nord à Cirencester, qui, s'enquérant de ceux qui craignaient Dieu, furent dirigées vers mon père, comme la personne la plus susceptible de les recevoir. Elles vinrent chez lui et demandèrent une réunion. Il l'accorda et invita plusieurs de ses connaissances à s'asseoir avec elles. Après un temps de silence, les amis dirent quelques mots qui eurent un bon effet. La réunion terminée, mon père s'efforça d'entrer en conversation avec elles, mais elles dirent peu de choses, se contentant de le recommander à Richard Farnsworth, alors prisonnier pour le témoignage de la vérité dans la prison de Banbury, où elle se rendait. Sur cette recommandation, mon père se rendit peu après à la prison afin de converser avec Richard, où il rencontra les deux femmes qui étaient venues chez lui. Le geôlier leur refusait l'entrée, leur disant qu'il avait reçu l'ordre de ne laisser entrer aucun de ses gens à la tête légère, et que, par conséquent, si elles entraient, il les y garderait. Mais, à la demande de mon père, elles furent admises avec lui et conduites à travers plusieurs pièces jusqu'à un cachot où Richard Farnsworth prêchait à travers la grille aux gens dans la rue. Mais peu après leur arrivée, il cessa, et après un court temps de silence, se tournant vers eux, il parla en substance ainsi, que Zachée, étant un homme de petite taille et désirant voir Christ, courut devant et monta sur un sycomore, et notre Sauveur, connaissant ses bons désirs, l'appela « Zachée, descend, le jour du salut est venu pour ta maison ». Ainsi Zachée était comme certains de notre temps qui grimpent dans l'arbre de la connaissance, pensant y trouver Christ. Mais la parole, maintenant, est « Zachée, viens, descend, car ce qu'il faut connaître de Dieu est manifesté au-dedans ». Cela et d'autres choses du même sens furent dites avec une telle autorité que, lorsque mon père rentra chez lui, il dit à ma mère qu'il avait vu Richard Farnsworth, qui avait parlé à sa condition comme s'il l'avait connu depuis sa jeunesse. Dès lors, il porta patiemment la croix. Et plus tard, probablement en l'année 1673, lorsqu'il plut à Dieu de lui communiquer une part de la connaissance de sa bienheureuse vérité, une nécessité s'imposa à lui, un matin du premier jour, d'aller à la maison de culte publique de Cirencester à l'heure du culte, ne sachant pas ce qui pourrait lui y être demandé. Il y alla, et se tenant debout avec son chapeau sur la tête, le prêtre resta silencieux un certain temps, mais, comme on lui demandait pourquoi il ne continuait pas, il répondit qu'il ne le pouvait pas tant que cet homme se tenait là avec son chapeau. Là-dessus, quelques-uns le prirent par le bras et le conduisirent dans la rue, se tenant à la porte pour l'empêcher de rentrer. Mais après avoir attendu un peu dans le recueillement, il se sentit libre et s'en alla. En passant sur la place du marché, le lacet de sa chaussure se desserra, et tandis qu'il se baissait pour le rattacher, un homme vint derrière lui et lui asséna dans le dos un coup violent avec une pierre en disant « Tiens, prends cela pour l'amour de Jésus-Christ ». Il répondit « Ainsi je le prends », sans se retourner pour voir qui c'était, mais poursuivant tranquillement son chemin. Quelques jours plus tard, un homme vint lui demander pardon, lui disant qu'il était le malheureux qui lui avait porté ce coup dans le dos et qu'il n'avait plus de repos depuis qu'il l'avait fait. Peu après, trois amis passèrent par là, ayant la même préoccupation, à savoir Robert Sylvester, Philippe Gray et Thomas Ognon. Ceux-ci, se tenant dans l'église avec leur chapeau sur la tête, bien qu'ils ne disent rien, firent que le prêtre resta silencieux, et comme on lui demandait s'il n'allait pas bien, il répondit qu'il ne pouvait pas continuer tant que ses chiens muets se tenaient là. Alors le peuple les traîna dehors, et le prêtre informa ensuite un magistrat qui l'avait interrompu dans le service divin, ils furent donc renvoyés devant les assises trimestrielles. Mon père, à leur demande, les accompagna aux assises. Lorsqu'on les appela et que le prêtre les eut accusés, le tribunal, dans un accès de rage, sans leur poser aucune question, ordonna que leur mandat d'écrou fût rédigé. Cette procédure injuste et illégale enflamma le zèle de mon père, si bien que s'avançant, il cria au juge « Ceux qui siègent au tribunal ont-ils juré de rendre justice? N'y a-t-il pas un homme parmi vous qui veuille faire ce qui est juste ?» Sur quoi John Stephen de Lypitt, alors président, s'écria « Qui êtes-vous, drôle, quel est votre nom ?» Mon père lui ayant dit son nom, il dit « Je suis content de vous avoir ici, j'ai entendu parler de vous, vous méritez une doublée de pierre. Il y a bien d'autres hommes plus honnêtes que vous que j'ai pendus. « C'est possible, répondit mon père, mais que pensez-vous qu'il advienne de ceux qui pendent des hommes honnêtes ?» Le magistrat répliqua « Je vais vous envoyer en prison, et s'il y a quelque insurrection ou tumulte dans le pays, je viendrai vous trancher la gorge le premier de ma propre épée, car je crains de dormir dans mon lit, de peur que de tels fanatiques ne viennent me couper la gorge. » Et saisissant une boule de cire, il la lança violemment à mon père, qui évita le coup en se décalant. Leurs mandats d'écrou furent alors rédigés, et ils furent tous envoyés en prison. Le même soir, mon grand-oncle Solis, qui était l'un des magistrats du tribunal, vint à la prison et demandant mon père, lui demanda s'il voulait recouvrer sa liberté pour rentrer chez lui auprès de sa femme et de sa famille. « À quelles conditions, oncle ?» dit mon père, le magistrat. « À ces conditions, que le geôlier ouvre les portes et vous laisse sortir. John Robert, quoi sans souscrire aucun engagement, le magistrat ?»« Oui, John Robert. Alors j'accepte ma liberté, mais je m'étonne, oncle, de la façon dont vous et plusieurs autres avez pu siéger au tribunal, comme avec les pouces dans la bouche, quand vous auriez dû dire un mot en faveur des innocents. » Le magistrat, « Vous devez apprendre à vivre sous une loi, cousin, et si vous voulez accepter votre liberté jusqu'à la prochaine session, vous pouvez l'avoir, sinon, restez où vous êtes. » Ils se séparèrent ainsi, et le lendemain mon père rentra chez lui, ayant aussi la permission du geôlier. Dans la nuit, une préoccupation s'empara de lui avec un tel poids qu'elle le fit trembler jusqu'à ce que le lit en fût secoué. Ma mère lui demandant la raison, il répondit « Le Seigneur exige de dures choses de moi. Si cela lui plaisait, j'aimerais mieux déposer ma vie que de lui obéir en ce qu'il demande de mes mains. » À quoi ma mère répondit, « Si tu es pleinement persuadé que le Seigneur l'exige de toi, je ne voudrais pas que tu lui désobéisses, car il ne nous demandera rien sans nous donner la force de le traverser, nous avons donc de bonnes raisons de nous confier en lui. » Alors il dit, « Je dois aller vers ce John Stephen, qui est mon grand ennemi, et m'a envoyé en prison où il a dit qu'il m'y tiendrait, et comme mon oncle Solis par bonté m'a permis de venir à la maison, je ne puis attendre plus de faveur de sa part si maintenant je vais me jeter dans la bouche de mon adversaire, mais je dois y aller quoique je souffre. » Et il se leva et se prépara pour son voyage, mais n'osait manger ni boire quoi que ce fût. Lorsqu'il monta à cheval, le commandement du Seigneur fut pour lui, « Souviens-toi de la femme de l'eau, ne te retourne pas. » Ainsi chevaucha-t-il très joyeusement 8 ou 9 milles, jusqu'à ce qu'il arriva en vue de la maison du magistrat, puis il laissa entrer le raisonneur, qui le raisonna hors de tout courage, représentant à son esprit que son oncle Solis et tous ses voisins diraient qu'il n'avait aucun égard pour sa femme et sa famille, de se pousser ainsi entre les mains de son plus grand ennemi. Cela jeta un tel nuage sur son esprit qu'il descendit de cheval et s'assit à terre pour exposer sa cause devant le Seigneur. Après avoir attendu quelque temps en silence, le Seigneur apparut, dissipa le nuage, et sa parole fut pour lui, « Va et j'irai avec toi, je te donnerai un instrument de battage, et tu battras les montagnes. » Alors il fut extrêmement vaincu par l'amour de Dieu, et je l'ai souvent entendu dire qu'il était rempli comme un vase qui demandait un exutoire, et il dit en son cœur, « Ta présence suffit. » Se rendant à la maison avec une grande satisfaction, comme il était assez tôt le matin, et voyant la porte de l'écurie ouverte, il alla vers le palefrenier et lui demanda de mettre son cheval à l'écurie. Pendant qu'on le faisait, le fils du magistrat et son clerc arrivèrent et dirent rudement, « Je croyais que tu étais au château de Gloucester, John Robert, c'était le cas, clerc. » « Et comment en es-tu sorti, John Robert? Quand vous aurez l'autorité de l'exiger, je pourrai vous répondre, mais mon affaire est avec votre maître si je puis lui parler. » Claire, vous le pouvez si vous promettez d'être civil, John Robert, si vous me voyez incivil, je vous prie de m'en avertir. » Ils entrèrent, et mon père les suivant, ils lui dirent d'attendre dans le hall, et qu'ils informeraient le magistrat de sa présence. Il fut bientôt appelé à entrer, et mon père n'eut pas plus tôt vu le magistrat qu'il crut que le Seigneur avait travaillé sur lui, car de la férocité d'un lion qu'il avait montré auparavant, il paraissait maintenant comme un agneau, l'accueillant d'un visage agréable, et le prenant par la main, il dit, « Ami, comment allez-vous ? » Mon père répondit, « Assez bien. » Puis il poursuivit ainsi, « Je suis venu dans la crainte et la terreur du ciel pour vous avertir de vous repentir promptement de votre méchanceté, de peur que le Seigneur ne coupe le fil de votre vie et ne vous envoie dans l'abîme sans fond. Je suis venu vous avertir avec un grand amour que vous écoutiez ou que vous vous absteniez et vous prêchiez l'Évangile éternel. » Le magistrat répondit, « Vous m'êtes un messager bienvenu, c'est ce que je désirais depuis longtemps entendre. » L'Évangile éternel, reprit mon père, est le même que Dieu envoya son serviteur Jean annoncer, lorsqu'il vit un ange voler au milieu du ciel, disant à haute voix, « Craignez Dieu, et donnez gloire à son nom, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources des eaux. » Le magistrat fit alors asseoir mon père près de lui sur le canapé, et dit, « Je crois que votre message vient de Dieu, et je le reçois comme tel. Je suis désolé de vous avoir fait du tort. Je ne vous ferai plus jamais de tort. » Après bien d'autres discours, il offrit à mon père la meilleure hospitalité que sa maison put fournir, mais mon père s'excusa de manger ou de boire avec lui à ce moment-là, exprimant combien il acceptait avec bonté son affection, et ainsi ils se séparèrent dans un grand amour. Le même jour, William Dewsbury avait fixé une réunion à Tedbury, où ma mère se rendit, mais elle était si préoccupée par l'épreuve de mon père qu'elle put tirer peu de profit de la réunion. Après la fin de la réunion, William Dewsbury allait et venait dans un long passage, gémissant en esprit. Puis, au bout d'un moment, il s'approcha de ma mère, et bien qu'elle lui fût inconnue, il posa la main sur sa tête et dit, « Femme, ta tristesse est grande, je suis triste avec toi. » Puis, marchant un peu de long en large comme auparavant, il revint vers elle et dit, « Maintenant le temps est venu où ceux qui se marient doivent être comme s'ils ne se mariaient pas, et ceux qui ont des maris comme s'ils n'en avaient point, car le Seigneur appelle à ce que tout soit offert. » Et elle vit par là que le Seigneur lui avait donné un sentiment de son grand fardeau, car elle n'avait révélé son épreuve à personne. Cela lui apporta un tel soulagement dans l'esprit qu'elle rentra chez elle en se réjouissant dans le Seigneur. À peine arrivée, elle trouva mon père revenu de Leipzig, où son message avait été reçu avec un amour bien au-delà de leur attente, ce qui les fit beaucoup fondre en larmes, considérant la bonté de Dieu, qui avait si éminemment frayé la voie et les avait aidés ce jour-là. La lettre suivante, adressée à George Fox, bien qu'elle ne porte aucune date, appartient à cette période et prend donc sa place dans les œuvres rassemblées de l'auteur. Faute de détails supplémentaires sur le voyage auquel elle fait allusion, on estime qu'elle mérite d'être placée ici, non seulement à cause des informations qu'elle contient, mais pour le témoignage qu'elle fournit de cette douce communion et harmonie qui subsistait entre les deux amis, tous deux personnages très marquants et éminents de leur temps. Elle apporte aussi un témoignage très agréable de l'estime dans laquelle George Fox était tenu parmi ses frères. « Chers frères, dans l'alliance de la vie, en Christ notre chef, mon âme te salue et compatit à ton épreuve dans tes liens, avec des soupirs vers le Seigneur pour adoucir toutes nos voies, ce à quoi il nous appelle, par sa présence vivante, pour l'accomplissement de sa gloire à jamais. Amen. Cher George Fox, j'ai parcouru de nombreux comtés dans le nord du pays, et la présence réconfortante du Seigneur s'est manifestée dans toutes les assemblées de son peuple, pour notre consolation à tous en lui, notre chef et notre vie, béni à jamais. Tout fut très paisible, et grand concours de toutes sortes de personnes aux réunions des amis, et aucune opposition, mais toutes les réunions se séparèrent en paix. Il serait trop fastidieux de mentionner les noms de ceux qui se souvenaient de leur amour pour toi, dans tous les comtés où j'ai voyagé, mais généralement, tous les anciens amis de Cumberland, Northumberland, l'évêché Durham, et Yorkshire, Derbyshire, Nottinghamshire, Leicestershire, et dans cette ville, désirèrent que leur cher amour te fût rappelé. Le profond sentiment de ton labeur et de tes douleurs effraie dans leurs esprits, ce qui amène beaucoup de prières à être répandues devant le Seigneur, si telle est sa bonne volonté et son bon plaisir, afin de te donner force du corps et liberté de voyager parmi eux, pour leur grande consolation comme aux jours anciens et aux années passées. Mais dans la volonté de notre Dieu, nos âmes demeurent avec toi, dans le bon plaisir de notre Dieu, en qui je demeure, ton cher frère, William Dewsbury. Si la lettre précédente est correctement placée quant à sa date, les liens auxquels elle fait référence, et sous lesquels George Fox souffrait alors, correspondent à son emprisonnement dans la prison de Worcester. Dans cette prison, il fut détenu près de 12 mois, et fut enfin, par habeas corpus, amené à Londres pour attendre son procès devant la cour du banc du roi. Dans cette affaire encore, ce Maxwell fut son juge, et il avait maintenant appris à apprécier le caractère d'homme tel que George Fox. Car après que la décision du tribunal eut été rendue en faveur du prisonnier, certains de ses adversaires, connaissant les conséquences de son refus de prêter serment, s'employèrent à persuader les juges de lui proposer de nouveau les serments d'allégeance et de suprématie, sous le prétexte qu'il était dangereux de le laisser en liberté. Le juge Hall, dont le caractère comme juge est si éminent, répondit qu'il avait certes entendu de tels rapports à son sujet, mais qu'il en avait entendu bien davantage de bons. Il ordonna donc, avec les autres juges, qu'il fût mis en liberté par proclamation. L'épître dont sont tirés les extraits suivants est datée du 14 jour du 11 mois 1675, et la portion choisie, étant d'un caractère très général, est jugée trop précieuse pour être exclue de ce volume. Chers amis, que le Seigneur a visité en ce jour glorieux, et retiré comme des tisons du feu pour l'attendre, dans sa lumière, afin que sa grande œuvre de régénération soit achevée en vous, pour votre consolation éternelle et pour la gloire du nom de notre Dieu à jamais. Mes chers amis, voyant que beaucoup sont appelés et peu choisis, beaucoup convaincus qui ne sont pas convertis, et beaucoup sortent avec nous qui ne sont pas des nôtres, comme une triste expérience l'a testé, du profond sentiment de cette action de l'ennemi, je suis contraint d'envoyer cet épître parmi vous, sachant que le royaume de Dieu est comparé à 10 vierges, 5 sages et 5 folles, qui avaient toutes des lampes et sommeillaient dans une sécurité d'esprit, jusqu'à ce qu'elles fussent réveillées pour entrer avec leur Seigneur. Alors furent manifestées les vierges folles qui, bien qu'elles eussent des lampes comme les autres, manquant d'huile, n'entrèrent ni ne purent entrer. Oh ! Chers et tendres amis, que tous craignent le Seigneur, vous qui faites mention de son nom dans la lumière du Christ, car cette parabole s'adresse à vous, à qui le Seigneur a envoyé pour vous prêcher à vous et en vous la parole de son royaume. Ceci est sur mon esprit, dans la parole du Seigneur pour vous tous, convaincus de la précieuse vérité de notre Dieu, afin que vous ayez une connaissance certaine de votre état et de la manière dont vous avez échappé aux ruses subtiles de l'ennemi, qui ont empêché tant de gens de posséder la vie de la vérité. Examinez et sondez vos cœurs à la lumière du Christ, afin que vous discerniez véritablement comment l'ennemi attire dans une sottise présomptueuse, dans une profession extérieure et formelle de la vérité, se nourrissant de la partie. Puis, dans un esprit élevé, dire « Je vois, je sais, je suis vêtu, et je ne manque de rien », alors que de tels hommes sont aveugles, nus, misérables et ont besoin de toutes choses. Tel est l'état des vierges folles, qui demeurent dans le parvis extérieur, et mettent toute leur confiance dans la forme et l'extérieur, et dans la profession de la vérité, et ont ainsi perdu le sentiment de cette fin céleste, qui doit posséder la vie, cachée avec Christ en Dieu, ou pleurer ses jours dans la tristesse. C'est pourquoi, chers amis tous, veillez diligemment à la lumière qui sonde les cœurs, afin que vous discerniez tous ce mystère d'iniquité, pour que l'ennemi ne prévale pas contre vous, en vous détournant soit à droite soit à gauche. Attendez du Seigneur la force de vous préserver de tout ce dont il vous a convaincu que c'est mal, et ainsi répondez aux témoins de Dieu dans le gouvernement de votre conduite, et dans la droiture de vos cœurs, tenez-vous net devant le Seigneur, prêts à faire et à souffrir tout ce à quoi il pourrait vous appeler. Lorsque vous aurez fait tout cela, demeurez vigilants dans la lumière qui sonde les cœurs, afin que l'ennemi ne tire pas vos esprits à mettre votre confiance dans l'œuvre de justice que vous avez accomplie, comme fondement et espérance de votre appel en Christ, et par manque de foi en lui, vous fasse vous reposer sur vos services, et qu'ainsi vous manquiez la vie cachée, goûtée par la foi dans la lumière et la vie du Christ, notre justice. Je vous en prie, chers amis, attendez de connaître votre passage dans ce grand mystère. L'entrée s'en fait par la porte étroite, et toutes les vierges folles, quelque glorieuses que soient leurs lampes dans la profession extérieure, n'entrent jamais dans ce repos, par orgueil de leurs acquisitions, car c'est là l'extrême limite où parviennent jamais quiconque fait profession de la vérité et s'en va de chez nous, sans être des nôtres. Vous tendre amis, qui cherchez véritablement la gloire de Dieu, et aimez tellement sa lumière que vous êtes prêts à abandonner la vie et tout le reste pour faire sa volonté, lorsque l'ennemi voudrait vous attirer à vous reposer sur ce que vous avez fait, et ainsi prendre les joyaux de Dieu, vous prostituer et vous parer, craignez le Seigneur, et dans sa lumière vous verrez davantage de lumière. Vous verrez que tout ce que vous avez fait n'est que votre devoir et votre service raisonnable, que vous devez accomplir, autrement vous périrez éternellement. Pourtant, dans la lumière, vos pauvres âmes cheminent sur les traces du troupeau des compagnons affligés, qui pleurent en secret et cherchent intérieurement le Seigneur Dieu, afin d'être unis à lui dans cette vie cachée, cachée avec Christ en Dieu. Jusqu'à ce que vous jouissiez de l'union nuptiale, dans une profonde humiliation, vous attendez dans la lumière que le Seigneur vous crée à une espérance vivante en Christ Jésus, le second Adam. William Dewsbury, en l'année 1676, John Whiting, qui vivait à Nailsea, dans le Somersetshire, au cours d'une visite qu'il fit dans quelques comtés des Midlands, alla voir William Dewsbury à Warwick, lequel, bien qu'il ne fût pas alors prisonnier, avait transféré de façon permanente sa résidence du Yorkshire à cette ville. Je conclus qu'avant cette époque sa femme mourut, puisqu'il n'en est fait aucune mention dans le récit donné par John Whiting, qui est le suivant. William Dewsbury habitait alors dans une maison qu'il louait, et avec lui j'eus dans son jardin de longs entretiens sur bien des choses à ma grande consolation et satisfaction, car il se montrait avec moi très libre et ouvert, au-delà de ce que j'aurais pu attendre, étant un jeune homme et extérieurement un étranger pour lui. Il me dit certaines choses que je n'oublierai jamais. C'était un homme extraordinaire à bien des égards, et je le tenais pour le modèle le plus exact d'un homme parfait que j'eusse jamais connu. Il me donna une épître à porter aux amis, et venant avec moi jusqu'à la porte, quand je partis la dernière fois, il me dit en prenant congé de lui que la bénédiction du Seigneur serait avec moi si j'étais fidèle, ce qui fut pour moi un encouragement, et par la bonté du Seigneur j'ai constaté qu'il en a été ainsi, au-delà de ce que je mérite, béni soit son saint nom à jamais. Nous avons déjà vu que le soulèvement des hommes de la cinquième monarchie fut pris comme prétexte pour exercer, ou plutôt pour accroître, les cruautés déjà infligées aux amis, et maintenant, en l'année 1678, au temps du complot papiste, on les fit souffrir sous l'accusation d'être des jésuites, un argument auquel on eut recours plus d'une fois, pour donner un vernis de légitimité à la persécution. Sur ce prétexte, William Dewsbury fut cette année-là jeté dans la prison de Warwick, et bien que le tristement célèbre Titus Gats eût délivré, de sa propre main, un certificat le disculpant de cette odieuse accusation, ce fut en vain. Il y fut détenu pendant une période d'au moins 6 ans, et ne fut enfin remis en liberté qu'à la suite de la proclamation générale Jacques-I, datée du 18 avril 1685. Commentaire de l'éditeur du site, cette proclamation du roi Jacques fut fortement influencée par les nobles efforts du bon ami du roi Jacques, William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie et éminent ministre des Quakers. Il remit et fit aboutir, en menant un lobbying efficace, une pétition au roi Jacques, montrant que 1300 personnes de leur foi étaient alors en prison, et que, durant les 5 dernières années, des centaines d'entre eux étaient morts des rigueurs de l'emprisonnement. En l'espace d'un an, par une proclamation du roi Jacques, ils furent tous mis en liberté, avec tous les autres dicides qui étaient emprisonnés pour leur religion. Plus de 2000 sortirent en foule des pestilentielles maisons de peste où ils avaient été enfermés, et des pères et des frères, voire des épouses et des mères, furent rendus à leurs familles. C'était un état de la société que nous pouvons à peine comprendre aujourd'hui. Une telle mise en liberté de personnes emprisonnées pendant plusieurs années pour rien d'autre que leur religion. Il y eut de grandes réjouissances dans toute l'Angleterre, surtout parmi les Quakers, qui, à leur prochaine réunion annuelle à Londres, revirent le visage d'amis précieux, dont certains, selon leur historien Gough, avaient été en prison 12 ou 15 ans et plus. Suite, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu au travers de la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.